Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Je suis Élise Giraudeau et mon premier roman, La vie en turquoise, qui est un roman contemporain engagé, va être publié en avril 2024 aux éditions Les Arts des Mots. Dans ce podcast, vous retrouverez tout mon parcours avec l'écriture, des conseils d'écriture et aussi le journal de bord de mes publications. Mais nous allons aussi parler de santé mentale, de résilience, d'écriture thérapie, de motivation et de bien-être en général. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à écouter l'épisode. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Laure Desfeuilles, qui est une de mes collègues de chez Les Arts des Mots. Elle y a signé son premier roman qui s'appelle La Deuxième Quête. Et comme j'ai dit, je suis vraiment ravie de commencer à recevoir mes collègues de Les Arts des Mots. Donc coucou Laure Desfeuilles / Anne-Maëlle, j'espère que tu vas bien.
Oui, merci beaucoup Élise, j'espère que toi aussi.
Oui, ça va très bien, je suis super contente de faire ce podcast avec toi et de pouvoir en savoir un peu plus sur ton parcours d'autrice, même si à savoir que Anne-Maëlle, donc Laure Desfeuilles, son pseudo qui est aussi son pseudo sur Instagram, est une des premières personnes que j'ai suivies sur Instagram quand j'ai créé mon compte Bookstagram. Du coup, je suis toute contente de pouvoir échanger. Je sais qu'on va parler de sujets super intéressants. Du coup, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas.
Moi, je suis Laure Desfeuilles. Je suis une autrice française d'imaginaire. Donc, j'écris de la cozy fantasy, principalement pour l'instant. J'adore écrire des scènes doudou et des fins heureuses. Et mon premier roman, donc, comme tu l'as dit, La Deuxième Quête, est sorti chez Les Arts des Mots au mois d'octobre.
Yes, ben encore félicitations d'ailleurs. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de La Deuxième Quête justement et nous donner envie de le lire? Mais cette fois-ci, je suis soulagée parce que j'ai déjà ton livre. Parce qu'en fait, à chaque fois, les gens me pitchent leurs romans dans le podcast et j'ai tout de suite envie de les acheter. Du coup, je suis ruinée. Mais là, j'ai déjà ton livre dans ma bibliothèque, donc, donc c'est bon. Mais je pense que tu vas peut-être en ruiner d'autres, mais là, je ne suis pas responsable. Du coup, on t'écoute.
Donc maintenant, l'enjeu pour moi, ça va être de donner envie de le sortir de la bibliothèque, en fait, pour que tu commences à le lire.
C'est prévu pour très bientôt. Ce sera une de nos premières lectures 2024. Donc,
La pression. La fille qui vient sur ton podcast et te met la pression.
Non, mais ça va plus que dans mon planning. Donc, c'est bon, j'ai pas de pression. Je me sens bien.
Donc, La Deuxième Quête, eh bien, c'est le premier tome d'une trilogie, donc de cozy fantasy, comme je l'ai expliqué. Peut-être que je reviendrai dessus un peu plus tard pour détailler ce qu'est la cozy fantasy. Et donc, pour vous faire un petit pitch rapide, c'est l'histoire d'Emma, qui habite donc au royaume de Villaltière. Et Emma, elle va se marier bientôt avec son fiancé, du coup, qui est un héros du royaume. Mmh. Et peu de temps avant les noces, son fiancé va recevoir une lettre du roi qui lui demande de repartir à l'aventure. Et donc, au lieu de proposer à Emma de l'accompagner, alors que c'est ce qu'elle espérait très fort, il lui laisse une lettre, encore une lettre, en disant qu'il part à l'aventure et en lui demandant de l'attendre bien gentiment chez elle. Et donc, Emma n'est pas très contente et elle décide de partir à l'aventure de son côté. Donc, d'abord, pour essayer de rattraper Almaric et de se joindre à sa quête. Et puis après, il va peut-être lui arriver des petites choses qui vont faire qu'elle va dévier un peu de son chemin, faire des découvertes sur son royaume, faire de nouvelles rencontres. Mais j'en dis pas trop pour ne pas spoiler.
Ok, bah écoute, trop bien. Et du coup, donc le premier tome est sorti en octobre, il nous a dit. Du coup, ce sera une duologie, une trilogie, une quadrilogie?
Ce sera une trilogie, du coup. Le deuxième tome sortira normalement au mois de juin, donc en juin 2024.
Ok, trop bien. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton parcours avec l'écriture et aussi du coup de ton parcours avec cette trilogie La Deuxième Quête?
Oui, bien sûr. Parcours avec l'écriture, ça va être un parcours d'écrivaine assez classique finalement, avec quelqu'un qui a toujours été une grande lectrice depuis que je suis toute petite. Mm-hmm. Forcément, quand on est enfant-ado, on a envie d'essayer d'écrire un peu et voir si on peut faire aussi bien que nos autrices préférées. Spoiler alert, non. mais bon, l'important c'est de se lancer finalement. Donc voilà, j'écrivais donc des nouvelles, des débuts de romans quand j'étais ado. Okay. Après, j'ai arrêté, j'ai fait une longue pause d'écriture et j'ai repris, je regardais la date l'autre fois, c'était en 2017, où là, j'ai repris et je me suis lancée dans la deuxième quête, en fait. Donc ça a pris un certain temps à écrire ce roman, vu que c'était mon premier roman, mm-hmm. forcément, c'est un peu long et fastidieux.
Ok, et du coup l'idée elle t'est venue comment, est-ce que tu t'en rappelles ?
Oui bien sûr, en fait je pense que les personnes, s'il y a des auditeuristes qui écrivent, le savent bien, on a beaucoup d'idées de romans qu'on commence et qu'on laisse de côté. Mm-hmm. Moi en fait l'idée de la deuxième quête, elle m'est venue de façon assez précise à partir d'un dessin de la dessinatrice et autrice qui s'appelle Emma avec deux M, je sais pas si tu la connais Élise.
Non je ne crois pas.
Elle a fait toute une série de dessins, notamment celle sur la charge mentale qui avait pas mal explosé au moment de sa sortie. Enfin, elle l'a publié en ligne, je crois. Et en fait, dans cette BD, tu as une série de petites vignettes. Et l'une d'elles, c'est une femme qui attend sur le pas de la porte. Donc la première, c'est son mari qui part en disant qu'il va sauver le royaume. Et la deuxième vignette, c'est de nos jours où c'est toujours une femme en train d'attendre et son mari qui se barre en disant qu'il va sauver le capitalisme, je crois, ou un truc comme ça. Okay. Et du coup, donc, j'avais trouvé ça rigolo. Et je me suis dit, mais en fait, si on met ça dans un univers de fantasy, qu'est-ce qu'elle peut bien faire, cette femme ou cette fiancée du héros, là, pendant que son mec vit plein d'aventures Et donc, c'est là qu'est née Emma avec un seul M.
Ok, trop bien, j'adore l'anecdote. Ok. Et du coup, tu as directement su que ça allait être une trilogie ou... Enfin, est-ce que tu as planifié les trois tomes ? Est-ce que tu avais déjà des outils à cette époque-là ou est-ce que tu écrivais un peu au petit bonheur la chance comme moi
au
début ?
C'était un peu n'importe quoi, hein, franchement. Hein, je ne sais même pas comment ça a pu aussi bien tourner. C'est-à-dire que là, au moment où on se parle, il ne me reste plus qu'à relire mon deuxième tome et avant de l'envoyer à ma maison, enfin à notre maison d'édition du coup. Et donc le tome 3, là, il est en premier jet. Il faut que je reprenne ça une fois que j'aurai terminé avec le tome 2. Mais c'est même étonnant que ça ait aussi bien tourné parce que vraiment, je suis partie avec une trilogie alors que vraiment, on recommande souvent de ne pas commencer avec des sagas. Je plussois plutôt ce conseil maintenant. C'est quand même très ambitieux pour des gens qui commencent tout juste à écrire, même si évidemment ça peut très bien marcher, mais c'est vrai que commencer avec un tome unitaire, c'est quand même plus safe, quoi. Mm-hmm. Même niveau placer son bouquin en maison d'édition, bon. Et donc non, j'ai rien planifié, j'avais une vague idée, même la fin de mon tome 1, j'avais une vague idée de là où j'allais, mais vraiment pas plus que ça, quoi. Et donc je pense que j'ai appris un petit peu sur le tas.
Ok, et du coup, c'est en l'écrivant que tu t'es dit, que tu as eu des idées qui sont venues, et du coup, c'est à quel moment que tu as décidé, vraiment que tu as acté que ça allait être une trilogie ?
Franchement, je m'en souviens plus. Ça commence à faire un petit moment, 2017, là, on va passer à l'année 2024, tu te rends compte ? Donc, c'est vrai que je pourrais plus trop te dire ce que j'avais en tête au niveau planification quand j'ai commencé, mais pas grand-chose, je pense. Je pense que j'ai dû me dire « Oh, c'est bien, une trilogie, ça se fait beaucoup en fantasy, allez, faisons ça !»
Ok. Et du coup, est-ce que tu as toujours voulu être publié ? Ou est-ce qu'à la base, tu l'écrivais pour toi, ce début de roman ?
Non, ça pour le coup, ça a toujours été un souhait. Okay. Je pense qu'à partir du moment où j'ai commencé à écrire ce roman, je me suis dit « Allez, vas-y, je m'y mets sérieusement ». L'objectif final, ça a toujours été la publication.
Ok. Et du coup, t'es arrivée quand sur les réseaux sociaux, sur Instagram ?
Écoute, sachant que j'ai commencé sur Instagram au départ pour promouvoir la deuxième quête qui était accessible gratuitement sur Wattpad à l'époque.
Ok, en entier ?
En entier. Okay. Je postais un chapitre ou deux tous les dimanches. Okay. Du coup, un peu en mode roman feuilleton, quoi. Mm-hmm. Et donc, ça, c'était déjà mon plan B. Donc, j'avais déjà écrit le roman, écrit une première version du roman, terminé, envoyé des maisons d'édition, eu des noms ou surtout des pas de réponse. Et après, là, voyant ça, je me suis dit, passe à ton plan B que j'avais déjà en tête depuis le départ. Tu mets sur Wattpad, tu crées un compte Insta pour en parler et tout ça. Puis, tu vois ce qui se passe, quoi.
Ok. Et du coup, parce que tu suivais déjà des personnes qui faisaient ça ou t'as vraiment eu l'idée
Non, je suivais des personnes qui faisaient ça. Je sais plus exactement qui. Quelques personnes, quelques autrices que je suis encore aujourd'hui. Mais j'avoue que je sais plus trop qui. Des gens qui étaient là déjà. Je pense que je me suis lancée peut-être en septembre... 2020 ou 2021, je ne sais plus. Donc, des gens qui étaient sur les réseaux à l'époque. Mm-hmm. Mais okay. Évidemment, je ne connaissais pas tous les auteurs et autrices que je connais aujourd'hui, quoi.
Mm. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette partie avec l'édition, avec la happy end à la fin, pour quand tu envoyais, quand tu as... quand tu as reçu le oui, quand tu as signé, et du coup les corrections édito, comment ça s'est passé, et la sortie aussi surtout, tout ça.
Mais oui, donc ça a été, donc toute l'aventure de la publication de la deuxième quête a été presque une quête en elle-même en fait, mais bon, comme pour beaucoup d'autoristes finalement, parce que j'ai envoyé, la première version que j'ai envoyée, j'ai un peu honte maintenant en y repensant, parce que forcément c'était une version ne serait-ce que beaucoup moins aboutie que celle qui était déjà sur Wattpad, sachant qu'on l'a évidemment encore retravaillée pour le publier, donc c'était... l'essence y était, mais la forme moins, quoi. Donc bon, mais bon, forcément, quand tu débutes, je pense que tu envoies un petit peu n'importe quoi parfois. Donc voilà, j'ai fait beaucoup d'envois, surtout des réponses soit, j'ai eu un nom générique et surtout des rien du tout en fait. Donc ensuite j'ai mis sur Wattpad, j'ai commencé à avoir des lecteurs et lectrices, donc ça forcément, et puis des échanges avec des gens sur Instagram, je trouve que ça donne vraiment confiance, ça pousse quand même à continuer, tu vois, de savoir que ton texte est lu et apprécié, même si évidemment il y a toujours de quoi retravailler. Donc petit flash forward jusqu'au moment où je suis mise en contact avec Les Arts des Mots, par ma copine autrice Cécilia, qui les connaissait, qui avait lu la deuxième quête sur Wattpad, je crois, ou est-ce que je lui avais envoyé, je ne sais plus. Et donc, comme elle avait bien aimé, elle a pensé à la ME en pensant que voilà, ça pourrait peut-être les intéresser, donc elle m'a mise en contact, on a commencé à discuter et tout ça. Et puis voilà, ça c'est pour la publication et les corrections édito. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore vraiment l'étape des corrections édito. Je trouve ça vraiment super cool parce que t'as une bonne excuse pour parler de ton texte à des gens dont c'est le métier de le faire, en fait. Donc, tu te dis pas... tu peux passer un peu de temps à analyser tel ou tel personnage ou tel ou tel point d'intrigue. Les gens en face, ils sont là pour ça, en fait, quoi. Tu vois, c'est pas tes potes que tu saoules.
Oui, je comprends.
Du coup, je trouvais ça vraiment chouette de pousser au max mon écriture, ma plume, on va dire, et aussi d'amener l'histoire aussi de façon aussi aboutie que qu'il était possible de faire, quoi. Donc c'était vraiment sympa.
Ok, d'accord, très bien. Écoute, trop cool. On adore les copines qui peuvent mettre en relation avec les ME. Sachez-le,
parce que... clairement.
Ça va être un de des sujets de podcast bientôt, c'est pour ça que je dis ça. Mais trop bien, je suis vraiment trop contente. Et du coup, tu as aussi participé à ma découverte de cette maison d'édition qui est trop cool. Donc je suis ravie du coup qu'il y ait eu un petit effet boule de neige comme ça grâce à Cécilia, donc trop bien. Du coup, tu m'avais parlé que tu étais contente d'avoir découvert le terme de cozy fantasy parce que à l'époque, tu savais pas trop où classer ton, où classer ton roman dans, parce que c'est un sous-genre de la fantasy, si je ne me trompe pas. Et t'avais fait plusieurs posts d'ailleurs. D'ailleurs, allez suivre Anne-Maëlle, donc Laure des Feuilles sur Instagram, parce qu'elle fait des posts très très cool. T'avais fait des posts avec tes petits cochons d'Inde pour expliquer ce qu'était la cozy fantasy et la différence avec la high fantasy. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ça et comment tu vivais le fait de ne pas trop savoir dans quel genre classer ton roman ?
Oui, bien sûr. Du coup, moi, là, j'ai vraiment juste parlé de la cozy fantasy parce que dès le moment où j'avais posté mes cochons d'Inde, qui était vraiment une bonne idée, je trouve, si je peux dire ça, de mes propres idées, mais je m'étais vraiment direct fait reprendre en mode « Non, alors attends, là, t'expliques ça, mais c'est pas exactement ça. » Du coup, pour résumer, les sous-genres de la fantasy, c'est très compliqué. Personne n'est d'accord sur exactement ce qui rentre dans quoi... Mais en tout cas, donc la cozy fantasy, pour expliquer brièvement, c'est comme tu l'as dit, un sous-genre de la fantasy où les enjeux, on va dire, sont un peu plus bas, un peu plus à hauteur humaine que dans, par exemple, heroic fantasy. Donc ça va plus être axé sur les relations entre les personnages, donc amour, amitié, tout ça, l'évolution des personnages au sein du roman, ça va être voilà, des enjeux qui vont être pas forcément le destin du monde entier et les guerres entre les royaumes, mais plutôt bah, voilà, comme je l'ai dit, l'évolution des personnages, je sais pas, la découverte de soi, trouver des gens qui nous ressemblent, enfin ce genre de choses. Voilà, évidemment il y a beaucoup d'histoires différentes en cozy fantasy, mais c'est pour vous donner une idée. Et effectivement, j'étais vraiment très contente d'avoir découvert ce terme et ce sous-genre, parce que quand j'ai commencé à écrire, on n'en parlait pas. Enfin, il y avait évidemment des histoires qui pouvaient se rapporter à la cozy fantasy, mais c'est juste que le terme n'était pas encore apparu, quoi. Mm-hmm. Et donc, forcément, ça vient des États-Unis, du monde anglo-saxon et tout ça. Mm-hmm. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu embêtée avec mon histoire parce que c'est une histoire pour les adultes. Ça, les personnes qui l'ont lu sont toutes d'accord et moi aussi. Mais il n'y a pas de violence graphique, il n'y a pas de sexe graphique, il n'y a pas d'état d'âme extrême, par exemple dans la, je sais pas moi, dans la souffrance ou dans la perte. Et c'est vrai que parfois, quand on pense fantasy, on a un peu tendance à penser à la dark fantasy où il va y avoir, bah, ou je sais pas, un peu à la Game of Thrones, où il va y avoir beaucoup d'intrigues et de décapitations et de scènes violentes et tout ça. Mmh. Et c'est vrai que moi, à la fois, les thématiques sont quand même adaptées aux adultes, mais comme on n'avait pas toute cette couche de épique, on va dire, mmh. bah, du coup, on pouvait se demander où classer le roman, en fait. Et donc c'est vrai que j'étais ravie quand il y a un peu la hype de la cozy fantasy qui a commencé à émerger, parce que je me dis, ah mais oui, c'est ça, en fait, c'est ce que je veux. C'est là où je veux classer mon roman, et ça aide tout de suite beaucoup plus à en parler, en fait, d'avoir une catégorie dans laquelle le ranger.
Mmh. Ok, d'accord. Et donc, du coup, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de... comment dire ? Est-ce que... Attends, je vais réussir à formuler ma question. Tout ce qui est cosy, on va dire, les scènes doudou, comme tu disais au début, les fins heureuses, etc., est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as envie d'écrire tout le temps ? Ou est-ce que là, tu as écrit, enfin, du coup, tu vas continuer à écrire ta trilogie cozy fantasy. Est-ce que tu aimerais passer à un genre un peu plus sombre ou pas forcément ? Enfin, c'est vraiment quelque chose auquel tu tiens d'écrire des choses un peu qui font rêver, réconfortantes, etc., sans mais, du coup, tout ce côté dark, comme tu disais.
Bah, écoute, dans ma nouvelle de l'automne, qui est donc sortie dans le recueil Cueille l'automne chez Lézard des mots, là, on part vraiment sur quelque chose qui relève beaucoup plus de la dark fantasy. Okay. Donc, j'aime bien parfois faire des incursions dans ce qui est un peu plus sombre, mais c'est vrai que ça me paraît difficile pour moi à tenir sur un roman entier, parce que je dois avouer que j'aime bien un peu chouchouter mes personnages. Donc c'est vrai que ce serait un peu difficile de vraiment les plonger pendant tout un roman dans des situations qui sont vraiment complexes et beaucoup de souffrance. Je pense que même pour moi, sur ne serait-ce que 80 000 mots avec des choses très dur, même si évidemment la dark fantasy c'est pas que des gens qui souffrent en permanence, parce que ce serait un peu long, mais je pense qu'il y a des œuvres qui sont plus sombres que d'autres, quoi. Mais c'est vrai que moi, quand c'est un roman entier, j'aime bien avoir une ambiance qui est quand même plus douce, ce qui n'exempte pas d'aborder des sujets qui peuvent être difficiles, mais c'est vrai que moi j'aime bien le faire un peu avec douceur, et surtout j'aime bien promouvoir, enfin en tout cas décrire des belles relations entre mes personnages, où enfin vraiment ils communiquent beaucoup et ils s'encouragent et tout ça, parce que je trouve que, bah, je sais pas, c'est quelque chose que j'aime bien écrire. Moi j'adore tout ce qui est dialogue et tout, et c'est vrai que l'évolution des personnages et les relations entre mes personnages, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, quoi. Et je sais pas, j'aime bien mettre ça en avant, en fait, parce que c'est vrai qu'on a souvent beaucoup de... Dans pas mal d'œuvres, j'ai l'impression que l'intensité est apportée par peut-être des relations qui sont pas forcément saines. Et autant parfois c'est bien fait parce que bah, ça sert un propos, autant parfois j'ai l'impression un peu moins. Et du coup, je trouve ça bien aussi d'avoir des modèles de relations qui sont douces et saines pour montrer aussi que c'est possible, quoi.
Mm-mm. Ok. Ben oui, ça fait sens. ça fait sens. Est-ce que tu sais déjà ce que tu voudrais écrire du coup après cette trilogie, ou tu sais pas encore parce que t'as pas terminé vraiment clôturé le la trilogie, justement, parce que le tome 3 n'est pas encore sorti.
Alors, j'ai des idées en tête, une de cosy et une de moins cosy, mais c'est vrai que je sais pas si j'ai envie de me lancer tout de suite dans quelque chose, parce que, par exemple, il y a 2 ans, j'avais plusieurs projets qui me tentaient vachement, je me disais, ah bah, dès que j'ai fini la trilogie, je me mets dessus et tout, et en fait, maintenant, ça m'intéresse plus trop, parce que, bah, je sais pas, j'ai changé de vibe, tout simplement, enfin, j'ai évolué dans ce qui m'intéresse en tant qu'autrice. Donc c'est vrai que, bon, là, la fin de la trilogie est plus proche, donc je pourrais déjà me projeter, mais ça se trouve, quand j'aurai fini mon tome 3, j'aurai encore d'autres idées et dans lesquelles j'ai envie de me lancer, donc c'est pas très clair pour l'instant. Je laisse les idées éclore.
Ok, t'es tellement sage. Ça me fascine, les gens sages comme toi.
Je suis très lente surtout, ouais, parce que si je commence à mettre d'autres projets, je vais jamais terminer ma trilogie.
Ouais, inspirée. Non, mais je t'admire, Anne, je t'admire. Tu es vraiment la sagesse. Ah là là. Du coup, en parlant d'envie d'autrice, etc., tu m'avais dit, donc avant le podcast, que tu envisageais vraiment le fait d'être autrice comme une carrière à part entière, que tu avais des ambitions pour cette carrière d'autrice, mais que tu voulais pas en vivre. Vivre de ta plume, donc est-ce que tu peux nous parler de ça, donc et à la fois le côté quelles seraient du coup tes envies d'autrice, tes ambitions, et aussi pourquoi est-ce que tu préférerais ne pas vivre de ta plume.
Alors, je vais peut-être répondre déjà à la deuxième question parce qu'elle est ça va être plus court. Pourquoi j'ai pas envie de vivre de ma plume? Je pense que c'est vraiment c'est quelque chose qui est tout à fait possible, hein, mais c'est quand même un métier qui est assez précaire, surtout dans les conditions actuelles. La situation des artistes autoristes en France n'est pas ouf, quoi. Mmh. Et c'est vrai que moi, j'aime bien... Enfin, j'ai quand même besoin d'avoir une certaine stabilité financière, on va dire. Mmh. Et c'est vrai que c'est quand même compliqué, quoi. Enfin, j'ai vu certaines autrices, là, qui partageaient sur les réseaux sociaux... de façon très transparente et honnête, donc j'ai trouvé ça vraiment super cool. Mais elles partageaient leur bilan de l'année en termes chiffrés, et c'est vrai que c'est quand même des autrices qui pèsent un peu dans le game, si je puis dire. Mmh. Enfin voilà, elles sont éditées par plusieurs maisons, c'est quand même des figures du domaine et tout. Mmh. Et c'est vrai qu'en fait, elles partageaient leurs revenus, et c'est vraiment pas beaucoup, quoi, je pense, pas beaucoup. C'est... Par rapport, je pense, au travail qu'elles fournissent et surtout à l'image qu'elles peuvent renvoyer de l'extérieur, genre, c'est des personnes qui sont installées, qui ont du succès, qui sont reconnues par la profession et tout ça, et elles vont gagner, je sais pas, un SMIC ou un truc comme ça avec l'écriture par mois, quoi. Du coup, c'est vrai que c'est... Comment dire, je sais que moi, personnellement, j'ai besoin de gagner plus que ça dans ma vie. Et en plus, je ne suis pas du tout aussi connue ni aussi vendue que ces autrices. Donc, si en plus, moi, je devais gagner des sous avec l'écriture, là, ça serait vraiment pas beaucoup. Mmh. Et ça ferait qu'ajouter du stress, en fait. C'est vrai que je pense que peut-être ça pourrait m'inciter à faire des choses qui me plaisent moins, mais qui sont plus commerciales. Après, des choses commerciales qui sont très bien, hein. Moi, j'en consomme beaucoup, mais c'est vrai que... Ouais, je pense que ça pourrait un peu fausser ma relation avec l'écriture, ça pourrait me mettre un stress. Donc, c'est vrai que je préfère compter sur des choses qui sont plus pragmatiques, qui vendent moins du rêve, et garder le plaisir de l'écriture. Même si ça veut dire écrire moins de livres, bon, c'est comme ça, finalement.
Mmh. Ok, oui, mais non, mais je comprends complètement. C'est vrai que... Je raconte ma vie un tout petit peu, hein, mais c'est vrai que quand j'ai débarqué sur Booksta et que je voyais toutes les success stories, etc., je me suis dit, ah, mais non, mais de toute façon, moi, c'est la vérité, je ne l'ai jamais cachée. Je suis arrivée dans mon travail, je ne sais pas par quel hasard. Je gagne très bien ma vie, c'est ce qui est cool, mais du coup, j'étais là en mode, non, mais moi, je veux absolument vivre de ma plume et tout. Et en fait, plus le temps passe, et moi, j'ai envie de vivre de ma plume. Alors, si je pouvais vivre de ma plume confortablement, évidemment, je ne dirais pas non. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis quand tu parles de la stabilité financière et aussi du rapport à l'écriture, dans le sens où moi, je pense que si je me dis que je dois absolument écrire pour pouvoir manger à la fin du mois, ça va me stresser. Je ne vais plus écrire. Donc, je ne vais pas manger à la fin du mois. Enfin, bref, ça va être un cercle pas du tout vertueux. Donc, ouais, je comprends complètement. Enfin, je suis encore partagée sur la question, mais je commence doucement à rentrer dans la team des personnes qui sont en mode « Attends, oula !» Je ne suis pas sûre, en fait. Donc ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et du coup, ouais, tu nous as pas parlé donc de tes envies d'autrice et de tes ambitions. Du coup, est-ce que
oui.
tu peux nous faire
elles arrivent en deuxième partie.
Rêver avec toi.
mais oui, donc même si j'ai pas envie de vivre de ma plume, même si exactement comme tu viens de dire, si j'écris un best-seller et que j'ai gagné des millions d'euros, je serais ravie, hein, clairement. Mais
oui,
bon,
oui.
On va quand même partir du principe que ça n'arrivera pas. mais c'est vrai que je considère quand même la carrière d'autrice comme une carrière, justement, parce que, en tout cas, c'est mon point de vue. J'aime bien essayer quand même de me mettre dans une posture professionnelle, parce que, ne serait-ce parce qu'en fait, en tant qu'autrice, on traite avec des personnes qui, elles, sont professionnelles, et c'est pas un débat, enfin genre, les éditorices, tout ce qui est profession, métier du livre, en fait, eux, c'est des gens qui bossent, et toi, en fait, je trouve qu'en face, si tu te mets un peu dans une posture de dilettante, en mode... je sais pas, genre oui, vous inquiétez pas, ah pas de problème pour moi, je veux surtout pas vous déranger, au final, c'est quand même énormément de travail d'écrire, quoi, donc c'est vrai que oui, moi je vois ça comme une carrière, quoi. Et donc mes envies d'autrice, écoute, on va dire pour les quelques années à venir, déjà ce serait pas mal. Forcément j'ai envie de terminer ma trilogie, j'aimerais bien écrire au moins un autre roman, allez, on va dire ça. Reparticiper à des salons, parce que j'en ai fait un là, début décembre 2023 avec Les Arts des Mots, et c'était vraiment trop bien. Mais c'est vrai que là, j'ai fait un post Instagram justement sur le sujet. Je disais précédemment, je ne suis pas encore super famous dans le monde de la littérature. On était là sur notre stand à essayer de, tu sais, un peu... pitcher aux gens, essayer d'attirer les gens, leur donner envie et tout. Et quand ça marche, c'est vraiment super satisfaisant. Enfin, avoir fait découvrir ton livre à des gens qui te connaissaient absolument pas, ni par les réseaux, ni rien, c'est trop agréable. Mais c'est vrai que si au bout d'un moment, je pouvais dire genre « Ah, je suis en dédicace à tel moment » et qu'il y avait des gens qui pouvaient être en train d'attendre genre pour me rencontrer parce qu'ils ont lu mon livre et que ça leur a vachement parlé et tout, ça, ce serait vraiment... un rêve et une ambition d'ailleurs, parce que je pense que c'est quelque chose qui est atteignable. Continuer de participer à des podcasts et autres choses, type de promotion du même genre, parce que j'aime bien, ça me plaît bien. Continuer à rencontrer d'autres autrices, essayer peut-être d'aller à plus d'événements organisés par des personnes de Booksta, histoire de continuer à faire des connaissances, réseauter et tout ça, parce qu'au final, c'est très important, je trouve. Donc en fait, essayer de me concentrer sur l'écriture et adopter vraiment une posture un peu pro, quoi.
Ok, écoute, trop bien. j'ai hâte de suivre toutes tes petites aventures. Enfin, tes petites et grandes aventures, toutes tes quêtes, comme Emma. Je trouve ça trop cool. Et du coup, comme dernière question, je voulais qu'on revienne sur un de tes posts et qui rejoint un petit peu ce que tu viens de dire par rapport au fait que les personnes qui travaillent dans le monde du livre, c'est vraiment leur métier à 100% et qu'elles travaillent vraiment en face. Nous aussi, mais bref, t'as compris. Et donc, en fait, elle avait fait un post il n'y a pas très longtemps qui avait pas mal résonné chez moi. Mettait un peu quand même, je trouve, un coup de pied au syndrome de l'imposteur et qui me disait en fait que, de toute façon, dans le monde du livre, personne ne te fera de faveur. Et je trouvais ça super intéressant et important de le dire parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui, comment dire, alors peut-être qu'ils ne sont pas encore signés, mais même je trouve que ça s'applique à tout, je trouve que ça s'applique à... Si tu as des lectures sur Wattpad, si tu as des personnes qui viennent te dire « Ah, j'ai adoré ton extrait, j'ai adoré ce que tu as posté, etc. » je pense sincèrement que, bon, à moins qu'il y ait vraiment une grosse masse d'hypocrites, mais je pense que, en tout cas par rapport à ça, quand c'est pas encore du monde dans le domaine professionnel, c'est pas... ce sont des vraies choses, en fait, ce sont des vrais compliments. Et quand on a signé son roman et qu'on passe du coup bah, du côté professionnel, si une maison d'édition te dit qu'elle veut te signer, c'est parce que ton texte est bon et c'est pas de la chance, c'est pas du hasard, c'est pas, ils ne sont pas trompés, vraiment, on ne va pas te faire de faveur. Et même si tu reçois un non, mais que le refus est argumenté avec des qualités de ton roman, c'est pas non plus, c'est pas faux, enfin, les personnes ne prendront pas le temps de te faire un retour comme ça et de te dire des choses positives si c'était faux. Et du coup, je trouve qu'en fait, ça a résonné dans plein de trucs. Et du coup, je voulais que tu nous en reparles et que tu nous donnes ton avis aussi. Et toi, comment tu avais tourné ton poste dans ta tête? Parce que moi, ça a peut-être résonné comme ça chez moi, mais en fait, c'était peut-être pas forcément à 100% le message que tu voulais faire passer. Mais bref, je trouvais ça hyper, hyper bien ton poste. Voilà. Du coup, je voulais que tu nous en reparles.
Oui, bah, merci beaucoup. Contente que tu l'apprécies, écoute. Oui, je voulais faire ce poste parce que parfois j'ai l'impression que les auteuristes, on est vraiment trop à se dévaloriser en fait. Et c'est pas une question d'arriver comme si on allait conquérir la pièce et le monde de la littérature et que de toute façon on était trop bien, c'est pas ça. Mais c'est juste que, en fait, je pense que ce qu'il faut vraiment se rentrer dans le crâne, c'est que les maisons d'édition, elles nous, bah, comme je l'ai dit dans le post, elles nous font pas une faveur en travaillant avec nous, en fait. Mais c'est applicable dans plein d'autres domaines. C'est comme si tu es embauché par une boîte, ta boîte, elle ne fait pas une faveur en t'embauchant, en fait. Mm-hmm. Enfin, c'est si les entreprises faisaient la charité, ça se saurait, quoi. Mm-hmm. Du coup, si une maison d'édition veut bosser avec toi, ou même n'importe quoi, si un éditeur veut, je sais pas moi, t'envoyer un livre, par exemple, pour un service presse, ou quelqu'un veut t'embaucher si tu es freelance, enfin, ce genre de choses, c'est pas pour te faire plaisir, en fait. Parce que sinon, les gens, ils ont juste à donner leur argent. Ils peuvent juste te donner de l'argent, sinon. Mais c'est parce que vraiment, bon, on va recentrer sur les autoristes, mais si tu envoies ton manuscrit et qu'on te dit oui, bon, exception faite des maisons d'édition à compte d'auteur, oui, bien sûr. Mais pour les ME à compte d'éditeur, si on te dit oui, en fait, c'est que les éditoristes ont vu un intérêt dans le texte et c'est qu'ils se disent « Ok, ce texte va nous rapporter, ça va nous rapporter quelque chose de le publier. » Donc évidemment... ça va te rapporter aussi quelque chose à toi puisque tu vas être publié du coup, mais à eux ça va aussi, enfin s'ils le choisissent c'est pour une raison en fait, c'est parce qu'ils estiment que bah ça va, je sais pas moi, bah tout simplement ça va faire bien dans le catalogue de la maison. Et aussi parfois on parle du fait d'avoir une communauté ou pas sur les réseaux sociaux, le fait que ça puisse t'aider ou non à faire publier ton livre par exemple. Et en fait je trouve que c'est pas forcément la bonne façon de prendre le sujet en fait, parce que la personne qui a une communauté sur les réseaux sociaux, elle a beaucoup travaillé en fait pour l'acquérir. Enfin, moi je sais que ça fait depuis du coup soit 2020 soit 2021, je ne sais plus, mais en tout cas quelques années. Et toi je sais que c'est pareil, et plein d'autres personnes sur Booksta, t'es là tout le temps à poster du contenu, à essayer de te renouveler, à essayer de trouver toujours des nouvelles façons pour donner envie aux gens de, bah, ne serait-ce que d'aller lire ton livre gratuitement ou de l'acheter s'il est accessible à la vente. Et du coup, c'est vrai que ne serait-ce que ça, c'est aussi quelque chose que tu apportes à la maison d'édition, par exemple. Enfin, ou alors, je sais pas moi, ton univers ou tes idées, ou que l'AME va sentir que t'es une personne hyper prometteuse et que dans quelques années... ils seront trop contents de dire qu'ils ont bossé avec toi parce que maintenant, t'es au firmament de la littérature. Donc, en tout cas, c'est vrai que je trouve que vraiment, en tant qu'autoriste, si on dit oui, c'est pas pour tes beaux yeux, quoi. Enfin, c'est que la maison d'édition, elle y voit vraiment... C'est pas une erreur, c'est pas un cadeau qu'on te fait, c'est un échange équivalent entre ta valeur à toi que t'apportes à la maison d'édition et la valeur que la maison d'édition, elle t'apporte, en fait. Et je pense qu'avoir conscience de ça, bah, ça t'aide à pas être un peu en train de te dévaloriser tout le temps. Parce que c'est vrai que sinon... Enfin, par exemple, si tu vas, je sais pas moi, sur un petit marché et acheter un bijou, bah... tu vas, si la personne te, en face qui vend le bijou te dit « Ah ouais, par contre, celui-là, t'as vu, il est pas fou mon bijou, j'étais fatiguée quand j'ai travaillé dessus et en plus, il a un petit défaut », tu vas être là genre « Bon, ben ok, je sais pas, je vais aller acheter un autre bijou ailleurs peut-être », alors que si la personne te dit « Ah mais regarde, il est unique et original, j'y ai mis tout mon cœur », sans dire que c'est le plus beau bijou du monde, mais juste bah, « Je me suis donnée à fond et je t'apporte toute mon expertise de personne qui fait des bijoux », je sais pas où je vais avec cette métaphore, mais tu as compris.
Non, non, mais j'ai bien compris, oui.
Bah là, c'est sûr que ça donne vachement plus envie aux personnes de l'acheter, quoi.
Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Et mais enfin bref, je me répète, mais du coup, j'avais vraiment beaucoup aimé ton post et je trouvais que ça résonnait sur plein d'aspects, comme tu nous as dit là. Donc voilà, trop bien. Mais dans tous les cas, je suis trop contente de te connaître. l'interview qui part en déclat. Non, mais du coup, je
suis gentille.
Je suis vraiment ravie de t'avoir suivi sur les réseaux et qu'en plus on soit signé dans la même maison, je suis trop contente. Et je voulais aussi te demander à quand le retour des couchons d'Inde, parce qu'on les attend.
Écoute, les cochons d'Inde, peut-être que je ferai des petits reposts de temps en temps avec mes cochons d'Inde où je les... Bah, peut-être que je les mettrai sur, sur Threads là ou là, je sais pas dans quoi je me suis engagée en voulant prononcer le nom de ce nouveau réseau social.
Mais j'arrive pas non plus.
Vous voyez de quoi duquel je veux parler. Mais écoute, j'avais fait un peu le tour de la fantaisie là avec les cochons d'Inde, mais après peut-être je pourrais... explorer d'autres genres, genre je sais pas moi, tout ce qui est cyberpunk, steampunk, c'est les seuls que je connais, mais voilà, explorer d'autres genres, ça pourrait être rigolo de faire ça avec les cochons d'Inde.
Oui, et j'espère que tu nous referas un concours bientôt parce que je tiens à gagner ma personne en cochon d'Inde. J'ai toujours l'image que tu avais fait pour Astrid de elle en cochon d'Inde, je trouve ça trop bien.
Écoute, j'y penserai pour les 1500 abonnés. Il m'en manque juste 450 là, donc okay. Ça peut aller très vite. Abonnez-vous.
Exactement. S'il vous plaît, j'aimerais avoir mon portrait en cochon d'Inde. Et vous le voulez aussi. Vous ne le savez pas encore, mais vous le voulez aussi. Donc, il faut que tout le monde s'abonne pour essayer de gagner son portrait en cochon d'Inde. Enfin, bref. Non, mais trêve de plaisanterie. Du coup, je suis vraiment contente de t'avoir reçu sur le podcast. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, si tu as une dernière chose à dire. Voilà, enfin pour conclure.
Écoute, non. Au moment où on se parle, on est sur le point de passer en 2024. J'imagine que l'épisode sortira en 2024. Donc,
oui,
bonne année aux personnes qui écoutent ce podcast. Si vous avez envie de vous mettre à écrire comme résolution du nouvel an, bah écoutez, faites-le. Franchement, ça pourra vous apporter que du bien dans votre vie. Au pire, ça fera pas un roman entier. Ça fera quelques phrases. Je dis sur le papier et ce sera déjà très bien.
Exactement. Je plus sois ce petit mot de fin. Merci beaucoup du coup, Laure des Feuilles, pour être venue sur mon podcast. Ça m'a fait très plaisir. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast. Si vous voulez venir témoigner d'une expérience qui vous est arrivée en tant qu'auteur ou autrice, ou bien nous faire part d'une difficulté que vous avez réussi à surmonter pour l'écriture de votre premier jet, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou bien à l'adresse mail elise.giraudot.contact@gmail.com. À bientôt!